Revenons avec la docteure Mélissa Généreux pour sa chronique. Bonjour, Mélissa.
Bon matin, Steve.
On se parle de maladies orphelines et rares ce matin.
Oui, c'est un terme dont peut-être certains ont déjà entendu parler, mais ça demeure flou pour plusieurs, j'en suis certaine. Lorsqu'on parle de maladies rares, on parle vraiment de maladies qui vont toucher moins qu'une personne sur 2000. Donc, effectivement, comme son nom le dit, c'est rare. Mm-hmm. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il y a plus de 7000 maladies rares qui ont été répertoriées à travers le monde. Ce qui fait en sorte que quand on met toutes les personnes qui sont atteintes d'une maladie rare, ça n'en fait pas mal. À l'échelle du Québec, là, on dit que c'est presque une personne sur 20 qui serait atteinte ou qui vivrait avec une maladie rare. Donc, à peu près presque un demi-million de Québécois. Là. Donc, c'est quand même beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Et malheureusement, on sait que les maladies rares, dans 75% du temps, c'est les enfants que ça va toucher, entre autres parce que c'est beaucoup d'origine génétique là, d'où émergent ces maladies-là. Et le terme orphelin, de son côté, là, ça fait plus référence à l'absence, dans bien des cas, à l'absence d'un traitement spécifique. Donc, ce sont malheureusement des maladies dont il y a du mal de guérir. On vit avec, on va avoir des traitements plus pour alléger les symptômes, la souffrance, mais il y a très peu de traitements spécifiques là, pour les 7000 maladies rares dont je parlais juste avant.
Et malheureusement, ça va peut-être un petit peu ensemble parce que s'il n'y a pas beaucoup de monde qui en souffre, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de recherche qui se fait autour d'eux. Puis, tu sais, je pense qu'un va avec l'autre, là.
Ben, en fait, d'un point de vue recherche, il y a quand même plusieurs chercheurs qui peuvent s'intéresser. Là, le fait que c'est rare, c'est sous-exploité. Donc, d'un point de vue recherche, ça peut être intéressant, mais c'est surtout au niveau des compagnies pharmaceutiques parce que tu comprendras qu'une compagnie vise à faire un profit, évidemment. Donc, pour une maladie rare, là, de tout le coût que ça peut engendrer là, de développer un médicament, de le mettre en marché, sachant très bien qu'il y a peu de personnes qui vont en bénéficier, tu sais, ça devient difficile de rentabiliser la chose. Donc, malheureusement, là, on pousse un peu moins pour développer des traitements au niveau des compagnies pharmaceutiques. Fait que ça, c'est un des enjeux médicaux, mais je dirais qu'il y a beaucoup d'autres obstacles que les jeunes qui sont aux prises avec ces maladies-là, mais aussi leur famille. Je pense que ça fait partie du portrait de la famille, certainement, de plusieurs obstacles auxquels ils vont se heurter, entre autres les retards de diagnostic. Donc ça, c'est vraiment bien démontré là, quand on questionne des familles qui sont aux prises avec ces maladies-là. Elles vont toutes nous dire qu'elles ont vu vraiment plusieurs médecins avant d'avoir réussi à trouver le bobo, le nom de la maladie. Puis l'autre enjeu, c'est qu'une fois qu'on trouve le nom de la maladie, bien là, les familles, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils essayent de chercher de l'information.
Ben oui.
C'est très difficile, tu sais, d'avoir accès à de l'information juste, de qualité, dans un contexte où la maladie, encore une fois, elle est très rare. Des fois, c'est vraiment extrêmement rare. Et bon, là, le traitement efficace, comme je disais, là, sur les plus de 7000 maladies, on en a moins de 700 qui bénéficient d'un traitement spécifique. Donc, ça aussi, c'est un enjeu. Puis finalement, bien, il y a toute la coordination des soins, parce que souvent, c'est des maladies qui vont toucher plusieurs parties, plusieurs systèmes du corps. Donc, on a besoin de voir différents spécialistes, puis on manque de coordination pour la famille là, qui a des rendez-vous régulièrement avec toutes ces personnes-là pour avoir, si on veut, une approche plus de qualité
globale. Et coordonnée. Oui, parce que dans le fond, vous êtes toujours dans l'exception, hein, vous êtes toujours la marginalité dans tout, là.
Toujours. Puis ça m'amène un peu à parler des enjeux, je dirais, plus sociaux. Peut-être qu'on y pense moins là, de prime abord, mais je trouve ça, moi, c'est vraiment ce qui vient me chercher beaucoup parce que, imagine, bon, ces familles-là, entre autres, tout le stress là, qu'on peut vivre, c'est l'incertitude par rapport à l'avenir. Des fois, on a des pointes un peu de désespoir. Donc, ça engendre de la détresse psychologique, c'est bien évident. Pour les familles, ben, où la personne aux prises avec la maladie, ben, il peut avoir une perte d'autonomie, là, une atteinte au niveau physique, mental, même au niveau des sens, qui fait qu'on va être moins autonome là, dans toutes les sphères de notre vie. Ça vient évidemment affecter le fonctionnement social. T'sais. Donc ça, peu importe laquelle des 7000 maladies dont tu souffres, de façon assez générale, les gens, les jeunes vont nous dire pas pouvoir assister à l'école 5 jours sur 5 comme les autres amis. Ils peuvent pas s'investir dans les mêmes types de loisirs ou en tout cas avec la même régularité. Donc, tu sais, ça aussi, ça vient vraiment peser.
Ça les isole encore.
Puis, ben, il y a les pertes financières, tu sais, parce que, imagine, là, des parents qui ont assisté à plein de rendez-vous, après ça, des périodes d'hospitalisation qui peuvent durer des fois là, plusieurs semaines. Donc, ça fait que souvent, on s'absente beaucoup plus du bureau que les semaines, les journées de maladie dont on dispose régulièrement, normalement. Des fois, les parents vont même décider de quitter leur emploi. Ça s'additionne au fait que les parents ont souvent des médicaments, des équipements médicaux, des frais de stationnement, d'hôpitaux, c'est tout ça qui s'ajoute au fait qu'ils ont moins d'argent à cause des pertes d'emploi ou des journées d'absence. Donc, c'est difficile.
Et un des rares organismes, d'ailleurs, qui s'occupe de ces maladies orphelines-là, d'une façon, c'est les mille pattes, le fonds des mille pattes.
Ah,
et d'ailleurs, tu vas être ambassadrice cette année?
Ben oui, je suis super fière de ça. Là, pour l'année 2020, là, ça s'est annoncé cette semaine, ambassadrice. Donc, le Fonds des mille pattes est inspiré d'Abigail Walker, là, qu'on a connue en 2014. C'est une jeune fille qui souffre elle-même d'une maladie orpheline extrêmement rare. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se donner comme mission de soutenir les familles aux prises avec ce genre de maladie-là. Puis moi, j'assistais à plein de rencontres cette année ou dans les derniers mois. Puis c'est vraiment des belles rencontres où les familles se réunissent, on brise l'isolement, on se raconte un peu chacun notre vécu respectif, bien, pas on, moi, là, mais les familles atteintes, et on voit à quel point il y a plus en commun que ce qu'on peut penser. Et donc ça, il y a du soutien moral qui est offert, puis évidemment du soutien financier aussi là, pour les grandes périodes d'hospitalisation, tous les coûts que je mentionnais tantôt. Donc c'est vraiment, vraiment une belle cause. Moi, ça me touche énormément. Puis d'ailleurs, on fait une belle soirée le 31 mars. Là, je vous invite tout le monde, au milieu de la santé, de l'éducation, des affaires, venez rencontrer des familles atteintes, venez rencontrer des experts pour vous sensibiliser à la cause. 31 mars, oh my God, à 5 heures, c'est juste 25$. Le but, c'est pas de faire de l'argent, mais vraiment de sensibiliser les gens. Steve, moi, je t'invite officiellement.
Ben, je vais aller faire mon tour. Hey, avec grand, grand, grand plaisir. J'ai noté ça à mon agenda, 31 mars, OMG. Avec un grand plaisir, je vais aller faire un petit tour là-bas. Puis comme tu le mentionnais, le 25$, honnêtement, c'est pas grand-chose.
Non, puis on peut acheter les billets sur la page Facebook du Fonds des mille parts, c'est super facile. Bon. Puis j'espère vraiment vous rencontrer, Steve aussi, là, ça va être une belle soirée.
Je vais aller avec un grand plaisir. Merci, Mélissa.
Merci à toi, bye-bye.
On revient sur la grève des chargés de cours de l'Université de Sherbrooke dans les prochaines minutes.